À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il est question de Saint-Élie. On les appelle comme ça souvent dans l'Église. Saint-Élie, les anciens prophètes. Et Élie, le plus grand, celui qui a vécu 9 siècles avant Jésus-Christ. On trouve son récit dans le premier livre des Rois, dans les chapitres 17 à 19. Son nom, en hébreu, c'est Eliaou. Mon Dieu est Yahvé. C'est ça que ça veut dire. Et c'est une des plus fortes personnalités, ça c'est sûr, de l'histoire de ce qu'on peut appeler la révélation dans l'Ancien Testament. C'est pas n'importe qui, c'est vraiment un personnage fantastique. Et les Carmes et les Carmélites se rattachent en somme, à lui, pour diverses raisons que je vais tenter de vous expliquer, afin de mieux comprendre. Il y a des beaux livres publiés chez les Carmes, en particulier, il y a des années, c'est introuvable aujourd'hui, Élie le prophète aux 2 volumes, aux études carmélitaines, chez Desclés de Brouwer. Bon, j'ai ça depuis 1956, voyez-vous, c'est introuvable aujourd'hui, j'en suis sûr. Mais il y a beaucoup de livres qu'on peut trouver sur le prophète Élie, actuellement, sur le marché. Et il y a en particulier celui de Adrian von Speer, dont je vous ai déjà parlé, cette dirigée de Hans-Urs von Balthasar, qui a écrit un Élie. Il y a dans le dossier de la Bible aussi, en 1993, un beau numéro de novembre 93 sur Élie et Élisée. Puis, en 92, il y a Michel Masson qui a publié Élie ou l'appel du silence. Et c'est cela que je voudrais développer aujourd'hui, l'appel du silence à partir de la vie de Élie. Avec Élisée, il est le grand prophète du 9e siècle, donc dans les années 800 avant Jésus-Christ. Il est dans le royaume du Nord, à une époque où la religion de Yahvé, la religion des Juifs, nos ancêtres dans la foi, et violemment battu en brèche par l'idolâtrie. Ça ressemble beaucoup à notre époque où le catholicisme, le christianisme occidental et les diverses religions d'ailleurs sont battues en brèche par l'idolâtrie. C'est une idolâtrie qui nous a envahis et nous sommes presque tous plus ou moins touchés. Hein? Moi le premier. Élie est le héros, hein? Le héros, accent aigu, R-A-U-T, de Dieu. Il est le prophète, quoi, de Dieu. Pas un prophète qui prophétise comme Jojo, là, rien à voir. C'est un prophète qui proclame la vérité de Dieu, donc, pour une mission qui est nettement religieuse, nettement morale. Il vient, lui, de Tisbé, en Galaad, et à la perversité religieuse d'Israël, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce, des sanctions divines. Vive Dieu, crie-t-il, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci, là il fait des espèces de prophéties de malheur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, si ce n'est à ma parole. Une sanction terrible dans un pays où tout brûle par le soleil, hein, parce que le soleil darde même la mort, si on peut dire, dans ces régions-là. La parole d'Élie, bien, comme ces jours-ci, dans nos pays, tout en Occident, les nuages d'orage se mettent en grève, puis les gouttes de rosée aussi, il n'y a plus d'eau. C'est-à-dire qu'au fond, nos âmes ne sont plus abreuvées. Prophète de malheur que c'est Élie, on pourrait dire. Alors le roi Achab, le roi qui règne à cette époque-là et qui est un roi absolu, est irrité. Alors, Dieu dit au prophète, qui porte une espèce de manteau de poil puis un pagne de cuir, il dit, va-t'en, va-t'en, va vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Tu boiras au torrent. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Mais les commandements de Dieu sont pas de tout repos, hein. Avec eux, bien, il faut marcher. Ben oui, pour observer les commandements de Dieu, il faut marcher. On peut pas rester en surplace. Il faut toujours avancer dans les commandements de Dieu. Un seul Dieu tu adoreras. Mais ça veut dire qu'on doit toujours mieux l'adorer. Je vais finir l'émission avec ce détail-là en particulier. Ce grand détail qu'observent les carmes et les carmélites qui se rattachent au fond au prophète Élie du Mont Carmel. Et il faut donc avancer. Et puis, le fleuve se dessèche, le prophète se réfugie en Phénicie finalement à Sarepta entre Tyr et Sidon. Et sur sa parole, écoutez bien ce qui va arriver. C'est une des plus jolies histoires de la Bible, ça. Une pauvre veuve n'hésite pas à lui sacrifier à ce grand prophète ce qui lui reste pour elle et pour son petit. C'est-à-dire, quoi? Une poignée de farine, puis un petit fond d'huile. Alors, heureusement qu'elle a fait ça, parce que le pot et la cruche deviennent inépuisables jusqu'à la pluie. Ce miracle, vous me direz que j'exagère, ce miracle est tout à fait plausible, oui, car il y a de miracles semblables qui se déroulent de nos jours. Il y en a. J'ai été témoin d'un miracle semblable. Mais à quoi pense Dieu? Le fils de cette femme meurt, finalement. Alors Élie, par trois fois, c'est un récit étrange, il se couche sur le cadavre du pauvre enfant. Yahvé, mon Dieu, que revienne donc en lui l'âme de cet enfant? Et sa prière est exaucée, il y a une résurrection. Et chez le roi Achab, là, pour revenir à Achab, c'est la famine. Les vivres hors de prix. Sa police traque Élie. Je vous fais un résumé, hein, je passerai très vite, on pourrait en parler pendant des heures, mais je raconte ça en quelques minutes. La police, donc, court après Élie, puis au troisième an de sécheresse, Dieu dit à Élie, « Va, présente-toi au roi Achab, je ferai pleuvoir. » Alors, quelle rencontre! Là, l'espèce de potentat, lui, n'en croit pas ses yeux. « Toi, ici, le perturbateur d'Israël, tu ne crains rien. » Et Élie répond, « Je ne trouble pas Israël, c'est toi et la maison de ton père, et surtout votre abandon des commandements de Yahvé, puis votre culte des Baals, c'est-à-dire des idoles. Nos idoles aujourd'hui, c'est quoi? Le sexe, l'argent, la drogue, le pouvoir, la renommée, la facilité, l'abandon de tout. Ah, c'est pas possible, hein? Alors, Élie lui continue, il dit, « Allons, convoque-moi tout Israël sur le mont Carmel, voyez-vous. » Et là, les 450 prophètes de la honte de Baal, convoque-les. Au fond, ça pourrait être les 450 fondateurs de certaines sectes épouvantables que nous avons ici. Toutes les sectes sont pas abominables, mais il y en a au moins 450 qui sont terribles, absolument invraisemblables. Ce sont des prophètes de la honte, des prophètes de Baal, hein? Ces gens étranges, qui enrégimentent des gens et enlèvent tout leur argent. Alors Élie est prodigieux, il est fantastique. Quand tout le monde est là, il crie, « Jusqu'à quand boiterez-vous donc des deux côtés? » Tout ça drôle, « Boiterez-vous donc des deux côtés? » Alors si Yahvé est Dieu, allez à lui. Et il dit, « Si Baal est Dieu, allez à lui. » Il y a un silence. Alors Élie fait préparer pour le sacrifice deux taureaux, mais sans feu. Il est seul contre les 450 prophètes de Baal. Ils invoqueront, lui et eux, leur propre dieu respectif. Le ciel va répondre. Alors enchanté du programme, la liturgie par la foudre, c'est une espèce de liturgie par la foudre, si vous voulez, alors la foule crie « Bravo !» Et là, du matin jusqu'à midi, les 450... bataillon de la honte invoque son dieu Baal, hein? Et puis en criant, en dansant, en se faisant des incisions sanglantes comme on fait dans ces milieux-là, Élie les nargue. Il dit, plus fort, votre dieu dort, réveillez-le. Alors, il prophétise jusqu'à l'heure de l'oblation sans succès. C'est 450. Alors Élie, lui, fait approcher le peuple il restaure l'autel démoli de Yahvé, de notre Dieu Yahvé, place la victime, met l'affaire aux édos jusqu'à 3 fois, puis il invoque Dieu. Et là, tombe le feu de Yahvé, il dévore tout. Le peuple se prosterne en répétant, « C'est Yahvé qui est Dieu !» Et Élie fait égorger tous les prophètes de Baal. Quel étrange personnage que on est dans une autre époque, hein, il y a près de 2000 ans. Oui, Élie, ce grand prophète, fait égorger tous les prophètes de Baal, les 450, et la pluie tombe en abondance. Alors, quel triomphe! Élie ne pense plus à la reine Jézabel. Elle lui fait dire, « Je te traiterai comme tu as traité les prophètes. » Oh, oh! Alors, Élie s'enfuit. Il n'a pas l'intention, lui, d'être égorgé. Il s'enfuit au loin. Au bout d'un jour, il s'arrête, il est découragé. Il dit, « J'en ai assez, Yahvé. » Ça, c'est un peu ce qu'on fait, tout le monde. On dit ça souvent à Dieu. « J'en ai assez, Seigneur. Prends ma vie. J'en ai assez, finis-en de ma vie. » C'est une prière triste, au fond. Mais quand on se dit que le grand prophète Élie l'a faite, ça peut nous consoler. Et il ajoute, parce qu'il se sent coupable, au fond, d'avoir tué tout ce monde-là, il dit, « Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Mais il pleure son péché, au fond. « J'en ai assez. » Mais il est réconforté par un ange. Oui, nous avons des anges qui peuvent nous réconforter. Oui, oui. Et là, il gagne le mont Sinaï, la montagne sacrée où Moïse a eu audience avec l'Éternel. Et Yahvé donne rendez-vous à Élie. Là, il y a un vent violent à rompre les monts, à briser les rocs. Un souffle. Mais Yahvé n'est pas dans le vent. Puis c'est un tremblement de terre, et Yahvé n'est pas dans le tremblement de terre. Puis, il y a un feu, mais Yahvé n'est pas dans le feu. Où est-ce qu'il est, Yahvé? C'est quand arrive un murmure d'une brise légère. Et là, une voix dit, « Pourquoi es-tu ici, Élie? » Et il répond, « Je suis consumé de zèle pour Yahvé, Dieu des armées, car ils ont abandonné ton alliance, les fils d'Israël. Ils ont renversé tes autels, ils ont passé tes prophètes au fil de l'épée. Et je suis resté, moi seul. Puis ils cherchent à me tuer maintenant. Et le Seigneur ordonne à son prophète, bien-aimé, de se rendre à Damas, en Syrie, pour sacrer un roi, justement, de Syrie, et de sacrer un roi d'Israël, et de sacrer aussi un prophète, Élisée. Élie trouve Élisée en train de labourer. Il le couvre de son manteau. C'est un acte symbolique de la prise de possession divine. Et Élisée l'endosse avec magnanimité. Il y a une grande scène dans l'histoire de l'Église où on voit ça. Vous savez, quand Saint François se met nu en public et l'évêque l'entoure de son manteau. Prise de possession divine. C'est beau. Alors le prophète Élie, qui est un homme enflammé, et il est enflammé de zèle. Hein? C'est pour ça qu'on l'aime beaucoup, parce qu'il y a du zèle. Hein? Comme on apprécie nos prêtres qui ont du zèle, nos évêques qui ont du zèle, les gens qui sont remplis de passion pour Jésus-Christ, pour Dieu. Et Élie a des répliques fulgurantes. Hein? Il y a une apologétique, une défense de la foi qui est flamboyante. Comment disparaît-il d'étrange et d'une manière digne de lui? Oui. Il marche, vous vous souvenez, avec son disciple Élisée au-delà de Jéricho, là, dans la pente là, qui s'en va vers la mer Morte, et non loin du Jourdain, qu'il a passé à pied sec par un prodige semblable au miracle de Josué. Et là, soudain, Élie se trouve séparé de son fils aîné spirituel, Élisée, par un char de feu et des chevaux de feu. Ah, il y a des tableaux là-dessus qui sont superbes, des icônes aussi russes, magnifiques. Hein? Ah, c'est dans des teintes d'oranger et de feu, c'est superbe. Alors, Élie se trouve donc séparé d'Élisée par un char de feu puis des chevaux de feu, et Élie monte au ciel dans un tourbillon. Hein? Alors, les gens qui aiment les extraterrestres aiment donc ce récit-là. Hein? Et Élisée le voit et crie, « Mon père, mon père! » Vous, la force d'Israël et son chef. Et finalement, il le perd de vue. On dit qu'Élie doit revenir à la fin des temps pour la conversion des Juifs. Saint Jean-Baptiste est un prophète dans le genre d'Élie, hein, qui représente tout l'ordre prophétique. Hein. Vous vous souvenez dans le film Jésus de Nazareth, là, quand au début on entend Jean-Baptiste qui prêche, quel zèle il a. Puis à ce titre, Élie paraît quand, vous vous souvenez, à la transfiguration sur le mont Tabor, aux trois principaux disciples de Jésus, hein? Puis Jésus est transfiguré à leurs yeux. Et le souvenir d'Élie est encore conservé au mont Carmel, à l'extrémité sud-est de la chaîne, sur un sommet aplani, nommé l'Holocauste, se place le lieu immortalisé par le sacrifice d'Élie. Puis vers le bas de la déclivité du Cap Carmel, entouré d'une construction qu'on appelle vulgairement École des prophètes, il y a la grotte du Verdoyant, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est identifiée à Saint-Élie. Il y a enfin une fontaine d'Élie. Puis toute la contrée sans distinction de croyance, hein, les juifs, les musulmans, les chrétiens, bien, tout le monde rend un culte au Saint-Prophète. Il est vénéré en Orient, il est vénéré en Occident, il est vénéré chez les musulmans, et dans les livres publiés par les Carmes, il y a de longues sections sur le culte chez les musulmans puis chez les juifs. Mais saviez-vous, justement, que la radio musulmane invoque Élie encore toutes les semaines? Il crie souvent, « Viens, Élie! » sur leur haut-parleur. Sa présence, en effet, est très marquée sur les pentes et au sommet du Mont Carmel. Le Mont Carmel, c'est un des hauts lieux de l'histoire religieuse du monde. C'est le lieu de pèlerinage qu'on appelle Élianique, en l'honneur d'Élie, là, d'après le nom d'Élie. C'est le lieu de pèlerinage, centré sur Élie. Cette montagne sacrée domine donc la baie de Saint-Jean d'Acre. Je dis ça pour les gens qui sont allés en Israël. C'est un cap, vous vous souvenez, la montagne porte aussi un autre nom, Roche Kadosh, ce qui veut dire le cap sacré. Le Carmel n'était rien d'autre qu'un lieu de plaisir et de détente pour le peuple juif, pour les riches s'entend autrefois. Mais aujourd'hui, sur ces pentes, il y a des belles villas qui ont été construites, et il y a des bougainvilliers, des frangipaniers à fleurs rouges, et beaucoup d'oliviers maritimes aussi. Seul le sommet a conservé sa physionomie d'autrefois. C'est là que, d'après les traditions des Carmes et des Carmélites, a été construit le premier sanctuaire dédié à la Vierge. D'ailleurs, il y a encore des Carmes là-bas. Du moins, il y en avait quand j'y suis allé la dernière fois, et j'ai rencontré là Daniel Rufessen, ce juif polonais qui a sauvé 300 juifs, et puis un officier nazi lui avait conseillé de se retirer dans un Carmel, sans ça les nazis l'arrêteraient. C'était un officier nazi catholique, évidemment. Et puis Daniel Rufessen s'est converti à l'intérieur du Carmel, habillé en carmélite, en lisant l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Il s'est fait carme après, puis il est allé vivre en Israël, et c'est là qu'il vit. C'est là que je l'ai revu, Daniel Rufessen, le père Daniel Rufessen, que j'ai déjà interviewé à Nazareth, pour Rencontre à la télévision. C'est un homme extraordinaire qui a beaucoup souffert, parce que divisé entre les Juifs et... Ah, c'est très, très, très difficile d'être un carme juif en Israël. C'est pas facile. Les Juifs n'aiment pas tellement ça, hein. Puis dans la brume, au loin, quand on est là, au Carmel, au Mont Carmel, eh bien, on devine Nazareth, puis la colline sacrée du Tabor, justement, oui, où Élie s'est manifesté en même temps que Jésus. Puis en bas, ben, il y a Haïfa, la ville moderne, avec ses cubes blancs, vous savez comment c'est construit, hein, c'est des hautes cheminées fumantes. Puis sur le promontoire, ben, il y a aujourd'hui une basilique, qui est entouré de postes de vigie, puis un phare. On voit rien de biblique dans tout cela. Mais à l'autre extrémité de la montagne, à 28 kilomètres, il y a la chapelle d'El Mouraka, c'est-à-dire du sacrifice, qui ne date pas de tellement longtemps, puis au loin, le mont Tabor, quoi. En bas, il y a la plaine d'Edrelon. C'est là qu'il lit. Bon, on y reviendra. Dans les rues d'Haïfa, pour la Pâque juive ou pour la célébration des circoncisions, il y a un cortège qui chante des invocations aux prophètes. C'est la grande fête d'Élie, c'est le 20 juillet. Si vous êtes là en été, allez dans cette région, vous fêterez Élie. Parce que toutes les races, toutes les religions catholiques, juives, musulmanes vénèrent le prophète. Hein. Je ne sais pas si dans les tensions entre les Israéliens et les Palestiniens de nos jours, on va fêter cette année, le 20 juillet, ce grand prophète Élie. Les musulmans avaient établi au sommet un mihrab, tourné vers la Mecque. Il est entre les mains des Israéliens maintenant. La grotte où aurait vécu Élie est sous une basilique. Sur le versant de la montagne, on trouve une autre grotte plus vaste appelée, comme je l'ai dit, l'école des prophètes, et ses parois sont couvertes justement d'invocations aux prophètes qui datent de très longtemps, le 4e siècle. Puis on y célèbre trois cultes. Évidemment, le culte chrétien, et puis, du mèche chanté en l'honneur de Saint-Élysée. Il y a le culte musulman, qui est un peu ralenti, parce que c'est presque pas possible pour eux. Il y a le culte juif, qui revient dans la grotte. Et Élie est né dans un village, comme je vous ai dit, dont il ne reste presque plus rien. Il a été pourchassé, comme je l'ai dit, par le roi, puis tout seul, des aventures sont arrivées. Puis les 450 prophètes de Baal sont morts. Une étrange vie que celle d'un homme employé par Dieu pour promulguer des vérités, des sentences, puis annoncer des malheurs. C'est sûr. Mais la vie d'Élie n'est pas de tout repos, comme on a vu. Il a été pourchassé par Jézabel, aussi, je vous ai pas raconté ça, qui vient d'apprendre le massacre de la bouche d'Akab, son mari. Puis, il s'isole dans les déserts, hein. Et il fréquente beaucoup les déserts, et c'est peut-être pour ça que les carmes l'aiment beaucoup, hein. Un jour, trop déprimé, d'ailleurs, il croit sa fin venue, hein. Comme je vous ai dit, il aspire à mourir. C'est un sentiment qui peut nous habiter, le goût d'en finir. Pendant, si parfois ça vous arrive, invoquez Saint-Élie, il vous aidera, il sait ce que c'est. Et pendant 40 jours et 40 nuits, on sait que le prophète Élie va au hasard, un peu n'importe où, dans le désert, avant d'aborder au massif qui dresse dans la plaine là, les 3000 mètres. Hein. Il réussit à survivre grâce à un gâteau cuit puis à une cruche d'eau que par deux fois un ange lui apporte. Oui, en l'encourageant à poursuivre sa route. Puis, on dit que l'ange Gabriel, qui annonçait à Zacharie la future naissance d'un fils, lui a dit, il marchera dans l'esprit très fort d'Élie. Hein? Saviez-vous ça? Que le fils de Zacharie, Jean-Baptiste, marchera dans l'esprit très fort d'Élie. Alors, ce Jean-Baptiste, c'est une figure d'Élie, au fond. D'ailleurs, l'esprit d'Élie n'est pas prêt de s'éteindre. Hein? Ah, il existe toujours, l'esprit d'Élie. Il faut l'avoir, hein? Et il faudrait peut-être aller dans des écoles spéciales de prophètes. Mais comment est mort Élie? Bien, un jour, qu'il marche aux côtés d'Élisée, comme vous savez. On peut pas dire qu'il est mort. C'est le char qui l'a enlevé, est enlevé. Le Carmel est pour lui un refuge, un lieu de retraite, le Mont Carmel. C'est le désert où il aime se retirer après ses longues courtes apostoliques. Et c'est au Carmel qu'il a la vision d'un petit nuage, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui inonde la terre d'une pluie devenue trop rare. La tradition a vu dans ce nuage l'annonce de la venue de la très sainte Vierge, et ainsi sont nés, à sa suite, les moines, qui vont désormais vivre dans son esprit, les carmes. Et pratiquement, on peut dire que l'ordre des carmes et des carmélites commence à cette période. Pour certaines personnes, du moins, c'est ce qu'ils pensent et c'est ce qu'ils enseignent. C'est une légende intéressante qui part de vérités en grande partie vraies, mais les vérités profondes, c'est celles qu'il faut avoir du cœur au ventre et être vraiment un croyant zélé comme Élie et fidèle à Dieu. Et puis, il y a des gens qui prétendent que Élie, qui a vécu au Mont Carmel un peu comme un moine, aurait eu d'autres moines un peu comme les moines de Qumran. Et que ce serait là le début de l'ordre du Carmel, du Mont Carmel, et des Carmes et des Carmélites. 8 siècles avant Jésus-Christ, c'est un peu fort, hein? Bah, évidemment qu'il ne s'agit pas encore d'un ordre organisé. Si ça existait, ce sont tout simplement des ermites qui n'ont nullement envie de se grouper, pour l'instant du moins. Ça existait, ça, dans les 10 premiers siècles de l'Église. La vie des ermites du Mont Carmel nous est pratiquement inconnue. Il faudra attendre quand? Au 12e siècle, pour trouver les premières tentatives de l'élaboration d'un ordre qui sera celui du Carmel. Nous avons des carmes ici à Montréal, sur la rue Hamel, près du métro Henri Bourassa, à l'est. Puis il y a les carmélites, près de la rue Saint-Denis, sur la rue du Carmel, un peu plus haut que la sortie nord du métro Laurier. Les ermites du Mont Carmel, qui est un mont sacré, étaient autrefois de pauvres gens mal installés, qui prient dans leur grotte en chantant l'office comme ils le peuvent. Le besoin de se regrouper autour d'une règle se fait sentir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent alors naturellement vers le patriarche de Jérusalem, puisque le Mont Carmel est en Israël, en Palestine. Le patriarche de Jérusalem, à l'époque, c'est saint Albert Avogadro. Il rédige à leur intention, vers l'an 1210, un règlement de vie. Il dit, puisque vous demandez que nous vous tracions une règle de vie adaptée au but que vous proposez, nous suggérons ceci. Premièrement, ayez un prieur à qui vous vous soumettrez. Bon, l'obéissance. Vivez dans des cellules qui garantiront votre esprit de solitude. L'esprit de solitude pour rencontrer le Seigneur dans la paix. Récitez des patères si vous ne savez pas lire. Je me souviens, quand j'étais jeune, à Saint-Benoît-du-Lac, les frères convers, ça existait à l'époque, on les appelait comme ça, se réunissaient à part dans une chapelle et récitaient des Ave Maria et des Notre Père. Ça existait. Aujourd'hui, ils sont au cœur, il y en a qui sont chantres, ils sont admirables. Donc, récitez des patères si vous ne savez pas lire, si vous ne savez pas lire l'office. Célébrez la messe pour les prêtres et tout le monde ensemble. Jeûnez, faites abstinence perpétuelle, c'est-à-dire s'abstenir de viande et de produits animaux. Il ajoute aussi pour ces nouveaux moines, travaillez de vos mains, très important, travaillez de ses mains, restez en toute occasion silencieux. Ça résume toutes les règles monastiques. Je trouve ça extraordinaire qu'en l'espace de 5 lignes, 6 lignes, ce saint Albert Avogadro dit tout. Cette règle a des sources orientales, c'est clair. Les moines orientaux ont adopté le silence, mais ils en ont jamais fait une loi aussi stricte comme le feront plus tard les chartreux de Saint-Bruno, puis les trappistes de l'abbé de Rancé. Je vous ai parlé de Saint-Bruno, puis de l'abbé de Rancé, j'ai tout fait ça déjà. Il s'agit plutôt alors de créer une atmosphère propice à la prière. Alors Saint-Albert Avogadro remet sa règle à un ermite nommé Brocard, et ce serait le premier carme. Composé de 16 très brefs chapitres, sa caractéristique, c'est quoi? Comme vous l'avez vu, c'est la sobriété, la synthèse, l'intelligence. Pour celui qui n'est pas averti, il est impossible de la dater. Elle ne contient aucune précision de temps. Il n'y a aucun détail, aucune indication qui permettrait de la placer à un moment qu'on pourrait deviner là. Mais les carmes appartiennent quand même à un ordre moderne, si on peut dire. Et la règle est là pour l'essentiel, vous vous en doutez. La règle est là. Elle est moderne. C'est-à-dire qu'elle est valable en plein 20e siècle. Elle est vécue aujourd'hui en plein 20e siècle, comme elle l'était il y a 8 siècles. Elle fait un devoir de prier puis de méditer jour et nuit la loi du Seigneur. Vous savez qu'ils ont l'oraison 2 heures par jour. À genoux, tant que possible. Pas facile. La prière, c'est le précepte central de la vie carmélitaine. Au 16e siècle, les réformateurs, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, je vous en ai déjà parlé les deux plusieurs fois, n'y ajoutent rien de plus. Rien de plus. Au contraire, ils vont surenchérir sur la valeur de cette prière, qui est la porte ouverte sur la contemplation. Parce que la prière, c'est aussi la porte ouverte sur la vie mystique à laquelle nous sommes tous appelés. Il y a des gens qui disent, la vie mystique. Laissez donc votre cœur, votre esprit, votre intelligence, tout votre être, se laisser saisir par l'Esprit Saint. Je vais vous en parler lundi, de l'Esprit Saint, comment l'Esprit Saint agit dans nos cœurs. C'est l'année de l'Esprit Saint. Et cette émission au Carmel, pour le Carmel aujourd'hui, c'est encore pour célébrer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont c'est le 100e anniversaire de la mort. On célèbre ça pendant 1 an, quoi. La règle du Carmel, elle donne accès à quoi? À des chemins qui conduisent à Dieu. En tous les cas, qui en facilitent à la fois la possession et la possibilité d'être possédé par Dieu. Elle a été mise au point au 13e siècle. Elle a voulu être une réaction contre le luxe et le relâchement des bénédictins du grand ordre bénédictin de Cluny. Et peut-être, sans Saint-François d'Assise, cette étrange réaction de réforme n'aurait peut-être pas eu lieu. François d'Assise a rayonné beaucoup. Et sans lui, on pourrait dire que l'écart n'a peut-être rien d'autre chose que de riches propriétaires terriens, comme bien des religieux, et non des moines mendiants. Qui sait? La règle, en tout cas, fait obligation à ceux qui veulent la suivre, les carmes, les carmélites, de vivre au service de Jésus-Christ, au service de Jésus-Christ, en se nourrissant de l'Évangile, d'une nourriture très riche, l'Évangile. Avez-vous un Évangile à côté de votre lit pour le lire avant de vous endormir? Ça nourrit la nuit. Et ceci n'est possible pour ces moines que dans le dépouillement absolu auquel ils sont invités. On pourrait la résumer par quelques mots, la prière, la contemplation, le silence, le travail, la pauvreté, la pénitence. J'en entends qui hurlent et qui disent « ça doit donc être plate ». Mais non! C'est superbe, c'est merveilleux, c'est le bonheur. Croyez-moi, je l'ai vécu 2 ans et je les regrette ces 2 années-là. Je ne les ai jamais retrouvées. Prière, contemplation, silence, travail, pauvreté, pénitence. Au creux de tout ça dans les monastères, c'est la joie. J'ai amené 2 de mes amis qui connaissaient pas Saint-Benoît du Lac il y a quelques jours. Ils ont été émerveillés par la joie des moines, car nous ne sommes pas... Nous sommes allés à l'intérieur, se sont promenés, ils ont tout visité pendant que j'allais à la bibliothèque. Ils ont été émerveillés de la joie. C'est un détail qui nous frappe lorsqu'on lit leurs règles. On se demande pourquoi elle fait une part si importante au démon, la règle des carmes. Généralement, le démon est l'ennemi de la vie contemplative. Il est normal qu'en la rédigeant ce Saint-Albert Avogadro ait donné quelques principes pour lutter contre son influence néfaste. Et cette règle, vous en connaissez déjà le sens, puisque les carmélites la suivent également, et vous connaissez les carmélites, j'imagine. On a assez parlé de Sainte Thérèse enfant Jésus, hein? Et comment se peut-il qu'une règle unique permette une vie si différente chez les carmes d'une part, chez les carmélites d'autre part? Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'observance devrait être la même, me semble, chez les uns comme chez les autres, hein? C'est une question que je me suis posé dans mon enfance. Et c'est pour ça que, qu'enfant, 6 ans, je disais, je ne veux pas être carme, je veux être carmélite. Et on me disait, tu peux pas, t'es un petit gars. Parce que les carmélites sont cloîtrés. Voilà ce qui différencie les carmes des carmélites. Elles sont cloîtrées, comme le sont toutes les moniales à vœux solennels, comme les bénédictines, les clarisses, les dominicaines du Grand Ordre, entre autres. Chez les chartreux, les femmes ne sont pas en cellules séparées comme les chartreux. Et la règle du silence est nettement moins stricte que chez les hommes. Sans doute pour des raisons d'ordre psychologique, croit-on. Hein? Il est très probable que si les carmélites avaient eu à sortir pour accomplir dans le monde des travaux, ou n'importe quoi, d'apostolique, mais la règle aurait subi des adoucissements, comme on le voit dans d'autres instituts réguliers. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé aux États-Unis chez les carmélites actives. Saint Albert Avogadro, donc, au XIIe siècle, a insisté sur les 3 vertus théologales. Qu'est-ce que c'est, les 3 vertus théologales, les petits, savez-vous, les jeunes? Et la foi, l'espérance, la charité. La foi, c'est croire. L'espérance, c'est jamais désespérer de rien, puis toujours avoir confiance en Dieu. Puis la charité, c'est être rempli d'amour pour son prochain, pour Dieu. Et Saint Jean de la Croix s'appuiera également tout le long de la montée du Carmel, son fameux livre, sur ses 3 vertus. Sainte Thérèse, elle va affirmer « le progrès de l'oraison consiste à aimer beaucoup ». On voit parfois à la télévision des bons ou des zen, des moines zen, etc., qui nous parlent de l'oraison, de la méditation, etc. J'espère que ça les conduit aussi à aimer beaucoup. J'ai eu cette impression hier en entendant un moine zen occidental et une religieuse bouddhiste orientale à la télévision. C'était très beau. Alors revenons aux origines du Carmel. Le premier prieur général est nommé par le pape, par le Saint-Siège. C'est Berthold de Malifé. À sa mort, le brocard dont je vous ai parlé tout à l'heure lui succède. Jusqu'au jour où les Arabes musulmans, qu'on appelait les Sarrasins, conquièrent Saint-Jean d'Acre et l'occupent. Et les ermites sont alors aussitôt massacrés en 1291 par les musulmans. En Orient, c'est la fin de l'ordre. En Orient, dans cette région-là, le Proche-Orient. Les quelques religieux carmes qui se sont répandus un peu en Occident en profitent pour tenter de sauver le Carmel en voie de disparition. Mais vivre en Occident, la vie érémétique, d'origine essentiellement moyenne-orientale, c'est pas si simple. Depuis près d'un demi-siècle, les carmes sont installés en Italie. Dès 1234, ils ont fui le mont Carmel vers Chypre, l'île de Chypre, qui est un royaume chrétien à l'époque, dirigé par les Lusignans. C'est un nom de famille qui existe au Québec, Lusignans. Alors, c'est une famille royale dans ce temps-là. Et puis, ça se situe dans la Méditerranée, là, c'est face à Israël, juste à gauche d'Israël, en dessous de la Turquie. Hein? C'est là qu'est Chypre. Je dis ça pour les jeunes, qui aiment bien ça quand je leur donne des explications de géographie. Alors, les moines vont aussi, les carmes vont aussi en Sicile, dans cette grande île au sud de l'Italie, puis à Marseille, au sud de la France, cette grande ville. Et Saint-Louis les a amenés à Paris en 1254. 1254, ils sont à Paris. Mais le clergé s'insurge contre ces importuns et dit « Nous ne vous connaissons pas ». C'est ce que disent les évêques aux religieux qui leur demandent de les appuyer. Alors, au chapitre général de Montpellier, dans le sud de la France, qui se tient en 1287, il y a 9 provinces de Carmes. Ça grandit. Et puis, au Moyen Âge, parmi les grandes figures carmélitaines, il faut citer Jean Sorette, qui, nommé provincial en France à 35 ans, a été élu général 10 ans plus tard. C'est un grand réformateur. Il va ouvrir la route à Sainte-Thérèse d'Avila et à Jean de la Croix. C'est pour ça que je le mentionne. Jean Sorette. S-O-R-E-T-H. On n'entend à peu près jamais son nom, mais c'est lui qui a suscité presque Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Qui sait si, sans lui, ces deux grands saints auraient songé à cette grande réforme qu'ils ont faite. Pratiquement, en fait, c'est à lui, ce Jean Sorette, que l'on doit l'existence même des carmélites. D'accord, il y a eu au cours des siècles d'autres réformes plus ou moins importantes. Mais une telle figure comme Jean Sorette mérite qu'on s'y attache. Tout d'abord, disons un mot tout de suite de cet ouvrage qui a été le livre de chevet de l'ordre avant le 17e siècle. C'est l'institution des premiers moines qui a été attribuée à un patriarche, Jean de Jérusalem, qui l'aurait rédigé vers l'an 412. Mais là, on tombe dans la légende. Mais c'est un livre d'initiation ascétique, au moins dans sa grande partie. C'est une ascèse, il faudrait peut-être la résumer par le mot de Sainte Thérèse d'Avila, et c'est très beau ce que dit Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, cette grande carmélite. « Dieu ne se donne totalement que si l'âme se donne tout à lui. » Je répète. « Dieu ne se donne totalement que si l'âme se donne tout à lui. » Puis, écoutez bien ce que Saint Jean de la Croix dit, lui, à sa façon. « Quand l'âme a accompli tout ce qui dépendait d'elle, impossible que Dieu ne fasse de son côté ce qu'il faut pour se communiquer à elle. » Et c'est ce guide de la vie mystique qui insiste... sur la solitude, ce Jean de la Croix, qui est favorable à l'oraison, il y a de l'importance des trois vertus théologales. Ben, ce livre de l'institution des premiers moines parle longuement de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain. Puis il est écrit, si tu refuses de remplir ce devoir d'amour, tu seras réprouvé. Il faut donc qu'ils s'aiment entre eux. Hein? Et aimer Dieu pour lui-même, dans le prochain, c'est la loi de charité. Toujours, et plus que jamais valable. Hein? Et on peut se demander pourquoi on les appelle les Carmes Deschaux. C'est qu'au moment de la réforme de Sainte-Thérèse, c'est un nom qui a été donné aux Carmes qui ont suivi cette grande sainte espagnole. Les autres Carmes n'ont réformé, sont demeurés chaussés. Hein? Alors ils ont porté des sandales. C'est pour ça qu'on les appelle les Déchaussés. Puis les véritables couvents de Carmes sont la plupart du temps installés en pleine ville, ce qui ne facilite pas toujours le besoin solitude des religieux. Je vous ai parlé du Mont Carmel, je vous ai parlé du prophète Élie qui a vécu sur le Mont Carmel, les Carmes qui sont encore sur le Mont Carmel. Mais le Carmel, c'est donc un ordre mendiant qui s'inspire vaguement de l'esprit de monastique et prophétique d'Élie, prophète Élie qui a vécu près de 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est un ordre mendiant qui est soumis à une clôture au même titre, c'est-à-dire au même titre que les trappistes et les bénédictins, un cloître. Les églises sont ouvertes au public. C'est encore comme ça chez les femmes. Et de l'église publique, on ne voit pas le cœur des religieux, des religieuses, en général. Parce que le tabernacle est protégé par une grille, ou du moins par un petit mur. Puis, les religieux peuvent voir le tabernacle. Ils se font face à l'autel, eux. C'est que ces chapelles sont construites en forme de L. Et c'est dans un Carmel comme ça qu'a vécu cette magnifique docteur de l'Église de 24 ans, Thérèse Martin, Sainte Thérèse de Lisieux. La petite Thérèse est évidemment un grand don de Dieu. C'est un don caché, comme le sont les Carmélites. Comme le sont aussi beaucoup de gens dans cette ville qui vivent la solitude dans leur maison, dans leur appartement, ne parlant à peu près à personne pendant des jours et des jours, si ce n'est qu'à une caissière, au marché. Ils vont à la messe, ils ne parlent même pas à personne parce que personne ne leur parle. On est seul. Or, la petite Thérèse, il est un don caché, si ce n'est pas parce que on a tout de suite beaucoup parlé d'elle et qu'on a très vite répandu les nombreuses photos qui avaient été faites dans son Carmel de Lisieux. Elle n'est pas une sainte cachée, elle est une sainte cachée. Elle reste même très cachée. C'est pour cela qu'il est difficile de parler d'elle parfois. Mais pourtant, c'est nécessaire, parce qu'elle doit nous aider beaucoup. Nous, qui vivons seuls, et que nous avons le devoir, si on peut dire, de l'aimer beaucoup, en lui demandant de nous aider à être fidèles. Avant d'essayer d'entrer dans ce mystère rapidement, de son lien avec Jésus, puis avec le Père, puis avec Marie, il faut se rappeler qu'on ne devient pas ermite d'un seul coup. On l'est comme par la force des choses, souvent. On vit seul, parfois avec un animal, des plantes. Nous sommes porteurs du secret de la petite Thérèse. Pour recevoir vraiment son message et pour le recevoir en profondeur, il faut la supplier de nous le transmettre. Et on pourra se disposer, donc, à le recevoir par une attitude de prière et de silence intérieur, comme le font ces moines carmes et ces moniales. C'est la conséquence de la prière. Quand on porte un secret, toute vraie prière implique un lien secret, avec Jésus. Mais quand on porte un secret, on devient silencieux. Et il y a en nous des zones de silence, selon les différents secrets que nous portons. Et notre grand secret, nous, c'est de nous savoir actuellement, là, maintenant, aimés personnellement par le Christ, puis de savoir que chacun de nous a ce lien d'amour avec Jésus. Et ce qui est premier, c'est notre foi, notre espérance, notre charité. Si nous mourons cette nuit, à quoi nous aura-t-il servi de nous tâter le pouls, puis de nous inquiéter? À rien. Tandis que si nous nous mettons en face de Jésus et que nous lui demandons pardon de toutes les bêtises que nous avons faites, et nous en faisons tout le temps, c'est différent. Il faut supplier Jésus de nous purifier, de nous donner à l'égard de nos fautes un repentir vrai, de vraiment pleurer nos fautes. Parce qu'on sait qu'on est tellement aimé, qu'on aime si peu et qu'on est si ingrat, et ça nous fait pleurer, ça. Il ne s'agit pas de s'excuser toujours en invoquant nos fragilités. Cessons ça. Il faut laisser Jésus nous pardonner puis recevoir le pardon du Christ. Première chose à faire, reconnaître que nous avons besoin du pardon. Comme le prophète Élie dont je vous parlais tout à l'heure, reconnaissons que nous ne sommes pas meilleurs que nos pères, il le dit, lui, qu'il y a en nous un poids de péché, un poids d'orgueil, de vanité, de grosse vanité. La vanité de la grenouille, là, qui vient être aussi grosse que le bœuf. On sait ce que ça représente. On veut toujours avoir raison. Il faut donc demander pardon de tout cela à Dieu. Nous ne lui en demanderons jamais assez pardon pour vivre comme les moines et les moniales. dans notre cœur, tout en étant du monde. Puis ensuite, il faut prier Dieu, le remercier, lui demander de nous faire entrer dans la prière. Celui qui n'adore plus est comme un errant. Celui qui se regarde d'un point de vue psychologique devient un errant. Alors qu'on ne peut pas être un errant si on reste attaché à Jésus, à celui qui est le Fils bien-aimé du Père. Si on fait que Jésus est notre sauveur, si on sait que Jésus est notre sauveur et qu'il est là pour nous, alors on va vers lui, puis on ne peut plus errer. On fait comme les carmélites. N'oublions jamais ce qu'a dit le pape. Il a dit quelque chose de merveilleux il y a plusieurs années. Il a dit que l'humanité, et donc aussi l'Église, les chrétiens, vivaient aujourd'hui une tentation comme elle n'en avait jamais vécu. Et le pape Jean-Paul II, qui est assez philosophe, parlait d'une métatentation, c'est-à-dire une tentation radicale qui va plus loin que toutes les autres et qui était de la racine de toutes les tentations. Parce que l'homme, la femme, aussi arrivé à l'âge adulte, en particulier grâce à la psychologie, croit pouvoir se sauver lui-même. On croit qu'on n'a pas besoin du sauveur. C'est l'orgueil collectif de l'humanité. C'est un drame. Un drame terrible. Actuellement, le démon essaie de faire croire à l'homme qu'il peut se sauver, qu'il n'a plus besoin du Christ Jésus et de son cœur brûlant d'amour, de miséricorde et de tendresse. C'est terrible. Il n'y a plus de place pour le Christ en tant que sauveur. C'est la grande tentation aujourd'hui, c'est la nôtre. C'est terrible parce que l'homme ne s'avoue plus pécheur et donc il ne veut plus recevoir la miséricorde de l'Esprit Saint et du Christ. Souvent, nous sommes en face de cette tentation et nous ne la voyons même pas. Quand on pense à Thérèse d'Enfant Jésus, on s'aperçoit que c'est son grand secret. Cette jeune fille de 24 ans, docteur de l'Église, en cette fin du centenaire de sa mort, là, a tout à nous apprendre pour vivre notre solitude dans la joie, dans l'esprit de pardon et de miséricorde que nous offre Dieu dans notre solitude. Pour trouver la joie, c'est pas si compliqué. Et le zèle et l'enthousiasme,